Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas. Nous sommes à Paris, ben oui, au 31 Place de la Madeleine. À Paris, après avoir passé hier un super moment pour notre émission spéciale Beau de Provence, on était en direct du domaine de la Valongue. C'était vraiment un très très bel endroit. Merci encore une fois pour votre accueil. On peut se retrouver Sud Radio à Corté sur l'île de Beauté, hein, sur 99.6 pour cher Philippe Aubrac. On en parlera tout à l'heure de la Corse avec vous. On parlera également des Côtes de Gascogne version rouge. Hein, David en a parlé des blancs il y a quelques semaines déjà. Le muscat avec le nez du muscat et tous les fruits qu'on peut sentir. Et le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. Alors la fine équipe du dimanche, elle est composée de, attention, il y a Hélène Piau qui est là. Bonjour Hélène.
Bonjour.
David Cobol, Philippe Aubrac et André Derieux. Bonjour, bonjour à tous les trois.
Et bonjour. Bonjour.
Alors pour débuter cette émission de Invino Sud Radio, on accueille maintenant Mickaël Gard, vigneron au château Augoujon. Bonjour Mickaël.
Bonjour à tous.
Alors racontez-nous ce château, il a été créé quand ? Hier matin ou il est ancestral ?
À peu près hier matin, oui. Non, moi je suis la quatrième génération ici et c'est une propriété que mon père a repris dans les années 50. Et voilà, donc moi aujourd'hui je m'occupe de toute la partie production puisque c'est une propriété familiale où nous travaillons entre frères et sœurs.
C'est donc, pas trop dur voilà. Ça parce que quand même, non ?
Ah, aujourd'hui c'est pas simple.
Voilà, vous dites, ça c'est à cause de la sœur, non ?
Non, mais les femmes...
On va discuter.
Mais elles sont importantes, les femmes, dans une propriété. Elles sont importantes, les femmes, dans une propriété. Si vous n'avez pas de femmes, c'est triste.
Et c'est justement pour ça qu'on passe la parole à Hélène Piau.
Merci, Mickaël. Enfin, une bonne parole. Alors, effectivement, vous êtes donc la quatrième génération de la famille Gard dans ce domaine Augoujon, fondé par votre arrière-grand-père, Élie. Ensuite, il y a eu Robert, Henri, et puis vous, avec effectivement Corinne, votre sœur.
Exactement.
Que l'on salue.
Que l'on salue.
Voilà. On l'embrasse, Corinne. Bravo. Voilà. Pas cesser faire, Corinne.
Alors, pour vous situer, vous êtes à une quarantaine de kilomètres de Bordeaux, hein, 3 kilomètres de Pomerol, 12 kilomètres de Saint-Émilion.
Voilà, on est un petit peu dans cette zone de la rive droite, autour de Saint-Émilion, qui est un peu la capitale de notre rive droite. Et voilà, où on a des sols ici un peu différents de Saint-Émilion. On est sur des sols graveleux, donc avec des sols un peu plus secs, donc des sols un peu plus difficiles, mais qui apportent des vins avec beaucoup de finesse et d'élégance. Et donc ça, c'est des choses intéressantes à travailler, surtout aujourd'hui, où le consommateur recherche un peu plus ce type de vin. Donc aujourd'hui, c'est notre grand challenge de continuer à développer et à essayer de continuer à aller dans le côté précision au niveau de l'élégance et de la finesse. Voilà. Et le fruit, bien sûr.
Alors cette finesse, vous la développez sur deux appellations, la Lande de Pomerol et Montagne Saint-Émilion, et sur 18 hectares.
Donc, exactement.
Donc racontez-nous un petit peu les différences chez vous entre les cuvées que vous tirez de ces deux appellations.
Alors nous, les terroirs, eh bien, montagne, c'est argilo-sablonneux, et ce qui est un peu atypique pour montagne, parce qu'on est à la limite de la lande de Pomerol. Donc on fait des montagnes qui tendent à ressembler un peu plus à la lande que des vraies montagnes. Donc,
est-ce que la lande ressemble à des montagnes ?
Non, bien sûr que non, puisque nos landes sont sur des graves. Mais la majeure partie des montagnes sont sur des argilo-calcaires. Donc nous, c'est des vins un peu plus différents. Voilà, donc on a des montagnes qui tirent un peu sur la lande, mais les landes sont très typiques sur des sols argilo-graveleux. Et voilà, donc après, ben, on fait plusieurs étiquette aussi, on fait plusieurs gammes, une gamme qui s'étale sur différentes cuvées. Voilà, aujourd'hui, je pense que vous allez goûter un Land Pomerol 2015. Qui est
attention,
notre...
c'est un scoop. Là, hop, vous avez carton jaune. Ah. On continue quand même, c'est un demi-scoop.
Ah bon.
Alors.
J'en parlerai après de la cuvée que j'ai goûtée.
Pardon.
Mais effectivement, vous parliez des différentes gammes que vous avez. Moi, je voulais souligner quand même le prix très raisonnable de vos cuvées, parce que j'ai aussi eu l'occasion de goûter vos Montagnes Saint-Émilion, et je signale le très bon rapport qualité-prix.
À combien, les bouteilles ?
C'est entre 9,50 et 13,50.
Ah, c'est très bien.
Pour des Montagnes Saint-Émilion, donc du château Augoujon, qui valent vraiment le coup.
Oui.
Voilà, y a des, surtout qu'à ce prix-là, on a des jolis millésimes 2015-2016 qui valent une douzaine d'euros. Franchement, c'est très, très sympa.
Et 2015, nous avions une belle récompense où Decanter nous avait donné un meilleur rapport qualité-prix avec un 91 points. Donc ça, c'était intéressant aussi. Montrer que même si on est un peu sur...
Je ne le savais pas, mais je suis d'accord.
La récompense
j'étais
suprême.
Peut-être même là avant Decanter, si ça se trouve.
Et la récompense suprême, c'est nous, Invino Sud Radio, en 2019. C'est formidable.
Eh bien, voilà. Comme ça, c'est impeccable.
Donc, deuxième gamme avec vos Lalande de Pomerol. Là, on est entre 14 et 21 euros.
Exactement. Donc là, il y a deux types de vin. Un vin élevé en barrique et un vin non élevé en barrique, donc un peu moins cher. Donc un vin un peu plus facile à boire autour de 15 euros, on va dire, destiné à garder 5-10 ans. Et puis l'autre, bien sûr, c'est plutôt sur 10-15 ans, quoi. Voilà.
Et puis alors, vous avez aussi une autre gamme, alors les cuvées créatives. Ah, donc là, on est dans une autre gamme de prix aussi, hein, 32-35 euros. Mais
ah, quand même, là.
Oui, mais alors, racontez-nous, parce que là, vous vous éclatez. Il y a le numéro 5 de Chanel et il y a le numéro 1 de Haut-Goujon. Racontez-nous le numéro 1 de Haut-Goujon.
Bon, c'est parti d'une histoire où quelqu'un m'a demandé de faire quelque chose à l'époque un peu différent. Donc, on avait fait une sélection des 5 meilleures barriques. Donc, cuvée numéro 1, c'est un peu le best-of de ce qu'on a fait en 2015. Donc, on a sélectionné les meilleures barriques de Merlot et de Cabernet pour faire ce type de vin-là. Et ensuite, dans les autres cuvées, vous avez des cuvées un peu atypiques par rapport à l'appellation, dont notamment la cuvée Liberté, que l'on a appelée, qui est un vin, en fait, que je construis et que j'élève sans sulfite. Donc, ça, c'est un peu le côté atypique du coin. Et voilà. Et cette année, en 2016, pour le millésime 2016, nous avons eu 3 étoiles coup de cœur au Guide Hachette avec un très beau commentaire. Donc, c'est vous montrer aussi qu'on peut faire des vins sans sulfite de très bonne qualité et de garde. Voilà. Et
avant le coup de cœur là, qui a été à demi dévoilé, on va dire, côté bouchage, c'est important. Parfois, il y a des vins qui ont des goûts de bouchon. Comment vous êtes équipé, vous, au niveau du bouchage?
Alors nous, on est parti sur des bouchons techniques, c'est-à-dire des bouchons Diam, qu'on appelle. C'est une marque qui a créé ce bouchon. Donc un bouchon technique qui nous permet à la fois d'avoir la même densité de liège dans chaque bouchon, donc d'avoir une sur le vieillissement des vins qui soient sur 10 bouteilles, vous aurez une grande régularité qu'avec des lièges, on n'a pas forcément, puisqu'on maîtrise pas forcément.
Et là, donc là, vous n'avez plus de problème de bouchon, en fait. Hein.
On n'a plus de problème de goût de bouchon, de débouchage, de remontée de vin, et ainsi, on permet aussi, ça nous permet d'avoir une qualité régulière au niveau des vins. Si on fait des vins très fruité, on pourra les garder un peu plus longtemps en fonction des... Comme les densités sont maîtrisées, puisque c'est un bouchon technique où on nous vend un peu ce que l'on... à la demande ce que l'on veut, en fonction de la densité du bouchon, c'est-à-dire du poids et donc de la concentration en liège à l'intérieur. Donc ça nous permet d'avoir une plus grande régularité dans la qualité du vin, dans le vieillissement.
Bon, ben très bien, Mickaël. Hélène, donc alors ce coup de cœur, le suspect est à son comble, là. Hein,
ah, effectivement.
Eh ben, oui, après, il faudra le goûter.
je l'ai goûté. Alors justement...
Le 2016, vous avez goûté?
Non, je parlais pas de la 2016 en liberté, j'ai parlé de la du 2015 pour la Lande de Pomerol.
Oh, tout à fait. Oui.
Donc effectivement, j'atteste que ça vieillit bien. Et ben écoutez, il est très chouette parce que il a le caractère de cette belle année qui était 2015 évidemment, les tanins, ouais, l'acidité qui garantissent la durée, mais on a aussi beaucoup de velouté, beaucoup d'élégance. Bon, ça coûte 21 euros, on est au-delà de la gamme de Montagne Saint-Émilion dont je parlais tout à l'heure, mais ça reste un très bon rapport qualité-prix. On se fait vraiment plaisir.
Et ça peut vieillir selon vous, Hélène? On peut encore l'attendre là, parce que c'est une belle année.
On peut l'attendre au moins 5 ans sans problème.
Merci beaucoup, Mickaël Garde. Merci également à vous, Hélène Piau. InVino Sud Radio retrouve Philippe Forbrac, président de la Sommelier française, pour une balade en Corse.
Et dans l'extrémité sud de la Corse et sud-est de la Corse, puisque je vous amène du côté de l'appellation Porto Vecchio. Alors, Porto Vecchio, c'est à la fois un village au fond d'une baie très connue, pas loin de Bonifacio, entre Solenzara et Bonifacio. C'est une petite appellation qui finalement a un peu souffert parce qu'à l'extrémité sud de la Corse, ça a souvent été conquis par les Sardes, les Arabes, les gens du Nord, etc. Donc c'était des zones qui étaient un peu compliquées. L'appellation couvre aujourd'hui 90 hectares, donc c'est finalement une propriété moyenne de Bordeaux quasiment pour l'ensemble de l'appellation. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils font des jolis vins. Ils produisent à la fois des rouges, des blancs et des rosés. On retrouve les cépages traditionnels corses qui sont le Tchaccarello, le fameux cépage qui doit son nom à l'épaisseur de sa peau, qui craque sous la dent, donc du coup ça veut dire le croquant en Corse, Tchaccarello, et le Nieluccio, qui ne note que le Sangiovese, que nos amis toscans notamment connaissent bien, puisqu'il est la base de l'appellation Chianti. Associés, les deux sont intéressants, ils produisent des vins de caractère. On y ajoute souvent du Grenache, qui apporte un peu de densité, le côté généreux, solaire qu'on lui connaît, et un peu de Syrah finalement, qui ces dernières années est arrivé pour apporter un soupçon de couleur supplémentaire. Mais j'ai tendance à préférer les cépages autochtones
quoi, ouais.
Exactement, le Nieluccio donne des vins qui ont un très joli potentiel de garde.
Ça peut se garder
une dizaine d'années sans problème. Les vins de Tchaccarello sont plus légers en couleur et ont tendance, du côté de Porto Vecchio, à donner des vins qui évoluent un peu plus rapidement, mais qui sont extrêmement intéressants. La tendance du rosé n'échappe pas à la Corse et à Porto Vecchio en particulier. Donc on produit de plus en plus de rosés un peu clairs.
Est-ce qu'ils sont pâles? Voilà, c'est la grande question.
Oui, c'est la tendance. Donc ils ont plutôt tendance à faire des vins qui se vendent. Donc c'est un peu la tendance
pas
d'aujourd'hui.
Pas de commentaire.
Voilà la couleur de la chemisette de notre ami, puisque nous sommes à la radio, notre ami David aujourd'hui.
Couleur Stade français, rugby.
Exactement. Et les blancs aussi. Et franchement, les blancs corses d'une façon générale, mais les blancs de Porto Vecchio, comme les blancs de patrimoniaux nettement plus au nord, sont intéressants, même si on n'a pas la même qualité de sol, puisque sur patrimoniaux c'est plutôt calcaire, là on est sur des sols un peu plus granitiques, voire argileux, et calcaire un petit peu. Mais les blancs sont intéressants, ils sont exclusivement élaborés à partir du Vermentino, qu'on appelle parfois la Malvoisie Corse, mais on appelle partout la Malvoisie Corse, hein, n'est-ce pas
Absolument.
Monsieur Derieux. Et donc ça donne des vins extrêmement fruités, désaltérants, avec l'environnement marin qui est le sien, du côté de Porto Vecchio. On a une évidence de vins qui sont tournés vers les produits de la mer, donc il y a beaucoup de poissons. C'est vrai que finalement, en Corse, on a des poissons, c'est évident, c'est une île. Mais la consommation locale est tellement axée sur les produits de la mer.
C'est quoi, c'est la cochonaille ?
Il y a la cochonaille, il y a les élevages, effectivement, aussi.
Le bon petit sanglier, un bon cochon.
Exactement.
Beaucoup de sanglier.
Exactement, les fromages aussi, beaucoup. Ouais. Hein. L'huile d'olive, la châtaigne, il y a plein de choses super intéressantes. Et d'ailleurs, à Porto Vecchio, il y a 2-3 bars à vin sympathiques, il y a les plaisirs du vin, dans lequel on peut retrouver de très jolies sélections de vins, mais aussi de produits de la région. Il y a également un bar à vin qui s'appelle la Cantina di Lorio, L'O2RIU, qui est également un endroit extrêmement chaleureux, comme savent l'être les Corses.
Lorio, je crois, signifie la cave. Hein,
exactement. C'est marrant parce que la cantine à Lorio, c'est la cave de la cave. Quoi, finalement. Ouais. Voilà. Et on y trouve, c'est une caverne d'Ali Baba dans laquelle on trouve effectivement toute une sélection de vins, mais aussi de produits corses de grande qualité, parmi ceux qu'on a cités tout à l'heure, la myrte, le cédrat également, et même des eaux minérales corses.
Mais oui.
La Zilia, l'Orezza, la Saint-Georges, enfin, etc. Quelques bons domaines de l'appellation qu'il ne faut pas louper. Alors, le plus emblématique, c'est le domaine de Torraccia, avec la famille Imbert qui est installée là-bas depuis les années 60 et qui a fait vraiment un travail formidable, à la fois Christian, mais maintenant son fiston. Le domaine de Solenzara, qui est la partie la plus au nord, puisque l'appellation commence à Solenzara jusqu'à Bonifacio. Le domaine de Granaggiolo, qui est également parmi les nouveaux domaines, en tout cas les domaines dont on parle de plus en plus aujourd'hui, et qui vont vraiment, sur les trois couleurs, des vins de grande qualité. Alors, ça se boit pour les rosés plutôt en saison, le blanc de façon plus intemporelle, le rouge plutôt en hiver. L'idéal pour déguster les grands rouges, et notamment de Nieluccio, quand ils ont un petit peu d'âge, avec ces notes un peu animales, sous-bois, mûres, assez concentrées en fruits rouges notamment, et en épices, c'est l'automne. Pas trop chaud quand même, autour de 16-17 degrés, il est raisonnable de les servir.
Merci beaucoup Philippe Arbac, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, avec le VinoQuiz pour gagner un très 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 joli cadeau en jouant notamment sur invinoradio.fm.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave, Nicolas, place de la Madeleine à Paris, au cœur de la capitale, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Piau et The VinoQuiz.
The Vino Quiz, dont le principe est que chaque semaine, nous vous poserons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau puisqu'il s'agit du guide des bons vins à petit prix de David Cobold en personne.
Oh là, dédicacé peut-être par David, il est en forme.
Est-ce qu'on peut jouer ?
Avec une photo toute nue. Non. Alors, voici
David
la question de ce week-end.
Oh là 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 là, sur la plage abandonnée. Alors oui.
La question de ce week-end concerne le rallye des vignerons des Baux-de-Provence.
Tout nu d'ailleurs, ça. Un rallye naturiste aussi.
Peut-être, qui aura lieu le 28 septembre. Alors justement, je vais vous donner trois exceptions concernant ce rallye. Vous allez me dire laquelle est fausse. Réponse A, c'est un rallye automobile ludique, ponctué de visites de caves et de nombreuses activités. B, le rallye se fait en marchant sur les mains. Ou C, il faut désigner un SAM par voiture qui sera récompensé pour son engagement s'il respecte évidemment les règles de sécurité.
Il n'y a pas l'option à poil alors ?
Il n'y a pas l'option à poil, mais ça c'est comme on veut.
Bon, réponse 2 si vous voulez.
Voilà. Pour répondre et gagner le guide des bons vins à petit prix de David Cobold, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Hélène. Invino Sud Radio retrouve justement David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour continuer sa balade dans les Côtes de Gascogne. Alors c'était blanc il y a quelques semaines, maintenant c'est rouge.
Oui, on passe au rouge. Et à la différence de beaucoup d'appellations en France, cette région, Gascogne, qui comporte presque tout le département, en tout cas une très grosse majorité du département du Gers, et qui déborde un tout petit peu sur les Landes et la Lot-et-Garonne, partie sud, est presque entièrement consacré au vin blanc. Et au vin blanc sec, avec aussi une part de vin blanc doux ou semi-doux. Le rouge ne représente que 7%, et puis il y a aussi 8% de rosé, dont je vous parlerai peut-être une autre fois. Alors les rouges, qu'est-ce qu'on peut dire des vins rouges ? Côte de Gascogne est une appellation récente, c'est un IGP, un anciennement vin de pays. Donc les règles sont plus souples sur le plan des cépages. Et pour comprendre l'encépagement, il faut aussi surtout comprendre le climat. On est dans un climat océanique où l'influence de l'océan Atlantique est forte et aussi situé sur un axe nord-sud entre le Piémont pyrénéen au sud et puis le Bordelais au nord. Et du coup, on trouve un mélange de cépages qui sont soit pyrénéennes, soit Bordeaux, soit les deux à la fois. C'est-à-dire toute la famille des Cabernet et de Merlot, donc Cabernet Sauvignon et Franc, plus le Tannat. Et quelques autres cépages, et ça c'est une tendance qu'on va voir évoluer à mon avis, qui va augmenter en puissance dans les années à venir, la découverte faite sous l'égide de l'excellent cave de Plémont, de cépages ancestrales, anciennes, un peu oubliées, qu'on n'a pas replantées ou très peu depuis le phylloxéra, comme par exemple un cépage assez récent, enfin qui a été réinstallé récemment, le Mansagne noir. Parce qu'on connaît bien le Mansagne blanc, le gros et le petit, dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Mais le noir, c'est intéressant. Alors pourquoi il est intéressant? Parce qu'il produit très peu d'alcool. Et par les temps qui courent, où le Merlot et le Tannat sont deux cépages qui donnent naturellement, quand ils sont mûrs, beaucoup d'alcool. On parle de 14-15 degrés facilement dans une année mûre. Et bien le Mansagne, il produit 11 degrés, ou 11,5. Donc on peut avoir un équilibrage dans le vin. Alors moi je prétends, d'après mes dégustations pour l'instant, que le Mansagne est surtout intéressant en assemblage et un peu moins en pur. C'est un vin assez délicat, mais voilà. Alors ces côtes de Gascogne rouge, j'ai constaté une très nette progression dans la qualité, parce que j'avais fait une dégustation il y a 2 ans. Là j'ai refait cette dégustation où j'ai goûté une quarantaine de vins rouges. Et honnêtement, les tanins se sont affinés, le fruit est plus mis en avant. On a des vins très très intéressants et surtout très abordables en prix. C'est comme pour les blancs, Alain. Vous avez des vins qui se situent entre, pour la grosse majorité, entre 5 et 8 euros la bouteille.
C'est vraiment pas cher.
Quelques cuvées qui voient un peu d'élevage en bois et une sélection parcellaire plus poussée grimpent jusqu'à 12 voire 14 euros, mais c'est tout. Et là, on a de très très jolis vins et qui ont en plus une capacité de garde. Je dirais même qu'il est préférable les boire après un an ou deux, puisque par nature, soit les tanates, soit les cabanets donnent des vins plutôt structurés,
oui.
Avec beaucoup de fraîcheur. Donc ils ont tout ce qu'il faut pour se conserver.
On peut conserver combien de temps? On peut aller jusqu'à quoi? 5-6 ans?
Ouais, facile. En tout cas, pour les meilleurs cuvées, 5-6 ans. Et je parlerai la semaine prochaine d'un phénomène à Bordeaux où j'ai goûté un Bordeaux supérieur qui avait 18 ans et qui était absolument fabuleux. Donc parfois, les capacités garde dépassent largement les recommandations. Je cite quelques domaines,
peut-être? Bien sûr, David, bien sûr.
Alors, pour les cuvées plutôt haut de gamme, j'ai goûté deux excellents vins de domaine de Chiroulet. Philippe Fosas, qui a un œnologue très connaisseur, très pointu sur son propre domaine et qui conseille aussi par ailleurs en matière de tonnellerie. Un autre domaine qui est tout près de là où j'habite, j'ai goûté tous les vins à l'aveugle, donc il n'y a pas de favoritisme, domaine de Larton, deux cuvées absolument magnifiques, vraiment impressionnants. Et puis j'ai aussi bien aimé Ubi numéro 7, qui est un Merlot Tannat assemblage. Labal fait un très joli vin, un Merlot Cabernet et Tannat. Et puis, le meilleur affaire de tous, en tout cas le moins cher, pour 4 euros, les Hauts de Montrouge, fait par la cave coopérative de Nogaro, comme sans blanc.
4 euros.
4 euros. C'est quasiment imbattable.
C'est
vrai que les caves coopératives peuvent pratiquer des prix.
Oui,
et puis, je citerai aussi le Mansagne, j'ai cité la cave de Plémont, mais leur Mansagne, qui est un assemblage de Merlot et de Mansagne noir,
oui.
Vraiment très intéressant aussi.
Et ça, comme type de gastronomie, Philippe Robert, qu'est-ce qu'on peut imaginer, ou David, avec ces vins? Parce que c'est de la gastronomie locale, des plats locaux ou alors de
Oui, alors la gastronomie locale, évidemment, va bien, parce que vous avez du gras pour allier avec l'acidité des vins, parce qu'il y a naturellement une bonne acidité. Vous avez aussi des plats salés, confit de canard et tout ça, qui va très bien pour assouplir les tanins. Parce que dès que vous avez un plat salé, les tanins disparaissent, c'est le fruit qui reste. Toute la cuisine locale, au fait, ça va bien, ou des viandes rouges, ou des plats en sauce.
Et moi, il m'est même arrivé de les apprécier, ces vins-là.
À l'apéro.
Oui, pour les gens qui veulent boire un vin salé pour démarrer, ça fonctionne bien. Non, mais avec des poissons. Du thon sans problème.
Les plus légers, oui.
Oui, exactement.
Oui, oui, oui.
Et même, étonnamment, avec des crustacés.
Oui, ah oui.
Un peu rôtis aux herbes, aux épices, etc.
Et là, je pense que c'est l'effet du sel, une fois de plus.
Le sel et la densité de la structure.
Bon, ben c'est très bien. Excellent sujet. Merci beaucoup, M. Kobold. Une Ville Sud Radio retrouve maintenant André Derieux, expert notamment en patrimoine de la vigne et du vin. On parle de muscat aujourd'hui, André.
Alors, on va mettre le nez dans le muscat, parce que pour bien comprendre le cépage muscat, il faut plonger le nez dans son étymologie. Il sent bon le musc chaud, mon muscat. Le parfum de musc était originalement dû à une glande de certains cervidés d'Asie centrale, le mot musc lui-même trouvant son étymologie dans le mot sanskrit musca qui veut dire testicule.
Ah ben, très bien.
Je croyais que c'était une autre partie de l'arrière-train. Mais bon.
Il vient de musc, comme muscadet, muscadin, muscadelle, rat musqué, noix de muscade, muscatnus, Herr Müller. Muguet, poire muscat ou les délicieux abricots muscat. Dans ce vieux français que ni vous ni moi n'avons connu mais que nous aimons à célébrer, il y a même le mot mugueter, faire le muguet qui veut dire draguer, étant bien entendu, vous le savez, qu'on se parfume pour se livrer à cette activité. Pour notre cépage, c'est à des hydrocarbures que l'on doit cette belle aromatique. Des hydrocarbures qu'on appelle des terpènes et qui sont produits par des plantes, le linalol qu'on trouve dans la bergamote, le géraniol qu'on trouve dans le géranium, mais surtout dans la rose. À propos de rose, il est émouvant de trouver dans le poème d'Aragon, la rose et le réséda, le sang des résistants qui coule pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Il faut en fait parler des cépages muscats, qui peuvent être blancs ou noirs. Le muscat d'Alexandrie, qui vient sans doute de là, d'Alexandrie, et qui nous donne le moscatel d'Espagne, dont on fait aussi le Jerez, le moscatel sec de Sierras de Malaga, et le vin doux de Setúbal, qui nous donne aussi le moscato de Sicile, et, c'est le bouquet, le zibibo de l'île
zibibo.
De Pantelleria,
et
alors, où Carole Bouquet est vigneronne, et dont la taille en gobelet, celle du cépage, pas celle de Carole Bouquet, est classée au patrimoine mondial de l'humanité.
Donc on peut dire que Vincent Moscato sent très fort.
Absolument. Il y a aussi le muscat Autonel et le muscat du Hambourg, dit aussi, je préfère, muscat du Ventoux. Il y a au-dessus de tous le muscat blanc à petits grains, nommé dans l'Antiquité Uva Appiana, cépage appian, aimé des abeilles ou au goût de miel. Il nous donne le moscato d'Asti, appellation à ne pas confondre avec l'Asti Spumante, mais surtout les grands muscats du Languedoc. Leur succès historique vient de leur parfum, vient aussi du fait que ce sont des cépages de table et de cuve, mais vient surtout qu'on en faisait divers types de vins blancs doux, considérés souvent comme médicinaux, et qui voyageaient bien en raison de leur taux de sucre. Du coup, partout où il y a un port méditerranéen, il y a du muscat. Bon, on trouve du muscat en Alsace, en Hongrie, en Allemagne, mais le muscat, c'est la Méditerranée. Dans l'Antiquité, on boit du Rhodes, du Lesbos, du Naxos, l'île où Dionysos a rencontré et épousé Ariane. Au cœur du Moyen-Âge, les croisés et les ordres hospitaliers se battent pour en boire. La puissance maritime de Venise s'affirme pour commercialiser les muscats dits alors vins grecs. Ils sont en odeur de sainteté auprès des papes d'Avignon, ce qui explique le muscat de Baume de Venise. Venu de toute la Méditerranée et pour la France, de Frontignan, de Lunel, de Mirval, Rabelais en parle, de Saint-Jean de Minervois, de Rivesal, du Cap-Corse, ils inondent littéralement les tables des puissants. Au XVIIe et XVIIIe siècle, ils apportent le soleil aux consommateurs du Nord. Rappelons que le Sauterne n'existera qu'en 1836. En 1740, l'abbé Bouquet, encore un Bouquet, reproduisait à Lunel le meilleur muscat du vignoble. Son secret, il ramassait le muscat à l'assiette, c'est-à-dire grain par grain. En décembre 1774, Voltaire écrit de Genève à un de ses correspondants « Je vous demande aujourd'hui une autre grâce, c'est de me conserver la vie. » Et comment ? En m'envoyant un petit carteau du meilleur vin de Frontignan. Et c'est à ce muscat précieux, celui de Frontignan, que le vin de Bordeaux doit sa bouteille particulière, aujourd'hui encore dénommée Frontignane. Napoléon et Karl Marx raffolent du muscat. Lors de l'irruption du phylloxéra, la France occupe l'île de Samos pour y développer en toute sûreté, à partir de 1890, les muscats de Samos. Les philatélistes apprécient particulièrement les timbres émis par le bureau postal de Vatti, capitale de l'île, à partir de 1900. En 1925, l'écrivain Colette appuie sur sa maison de Saint-Tropez une treille muscate. Et je suis persuadé que Mallarmé pense au muscat quand il écrit « L'aurore est un lac de vin d'or ». Il est temps, dans ce monde de brut, de revenir, et je regarde autour de moi, à la tendresse de ces cépages, aimés des abeilles, et à la douceur de leur vin ensoleillé. Les vins muscats doivent être redécouverts. Chaque mois de juillet, il y a d'ailleurs un concours des muscats du monde. Les doux sont idéales pour le foie gras et leur utilisation en cuisine. Pourquoi ne pas déguster avec modération ?
Toujours.
Une cuvée, l'originel du Clos de Miège à Mirval, il est produit par une historienne spécialiste du muscat. Rivesalt produit chaque année un muscat de Noël. Les muscats secs sont parmi les rares vins, avec les sauvignons, à pouvoir accompagner des asperges. Mmh. Et comme raisin de table, nous avons par exemple le muscat AOP du Ventoux, qui vient de célébrer sa fête annuelle à Ville-sur-Ozon, au pied du Mont Ventoux.
Oh là, excellent, André. Hélène.
Alors, moi, j'ai deux propositions de Vino Quiz pour la semaine prochaine.
Oui.
C'est soit quel est le vin qui réunit à la fois Napoléon, Karl Marx, Colette et Carole Bouquet, soit combien de fois André Derieux a-t-il prononcé le mot muscat dans sa chronique la semaine dernière. Parce que là, à mon avis, on peut battre beaucoup de records.
Bon, ça va, c'est pas une marque Rosebank.
C'est pas extrêmement ancien.
Merci, en tout cas, Hélène.
Très,
merci,
très, très ancien,
André, David et Philippe.
un des plus anciens parce qu'il était très parfumé, il plaisait beaucoup.
Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, iniradio.fr ou sur notre page Facebook. Invino, on se retrouve la semaine prochaine, hein, samedi prochain à 12h30 précise, pour une émission délocalisée chez Nicolas Le Caviste, fondé en 1822. Voilà, c'est le moment, excellent déjeuner, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, observez la plus grande des modérations.
Sud Radio, Invino.